France Culture.
Les instances médicales concernées par l'affaire Le Squarneck défilent ces derniers jours devant la cour criminelle de Vannes. Chacune d'elles refuse d'admettre sa part de responsabilité dans la poursuite de l'activité professionnelle du pédocriminel. Pourtant, malgré une première condamnation en 2005 pour recel d'images pédopornographiques et l'alerte d'un confrère au conseil départemental de l'ordre des médecins l'année suivante, Joël Le Squarneck a exercé auprès d'enfants jusqu'en 2017 sans en être inquiété. En ce moment même, il est jugé pour viol ou agression sexuelle aggravée de 299 victimes présumées qu'il a reconnues pour la plupart, des victimes d'une moyenne d'âge de 11 ans à l'époque des faits. Alors, dans cette affaire hors norme, y a-t-il une responsabilité des instances médicales et des représentants du monde de la santé? Comment comprendre que Le Squarneck ait pu agir durant tant d'années sans en être inquiété, tout en continuant d'exercer? Pour en discuter, pour en débattre, même trois invités ce soir. Clara Debord, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice générale de l'Agence régionale de santé Centre-Val de Loire. À vos côtés, Marika Mathieu. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes autrice et réalisatrice. Vous avez co-réalisé la série documentaire intitulée Outreau, un cauchemar français diffusé sur Netflix. Et vous avez publié une enquête littéraire à propos de l'affaire Le Squarneck, enquête intitulée L'impunie histoire d'un déni collectif. C'était et c'est toujours chez Studio Fact Édition. Avec nous également Marie Ménil, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maîtresse de conférence en droit privé à l'Université Paris-Saclay, spécialiste du droit médical. Merci à vous trois d'être présentes ce soir dans Questions du soir. Et je le disais, Joël Le Squarneck est accusé de viol ou d'agression sexuelle contre 299 victimes alors qu'elles étaient pour la plupart hospitalisées entre 1989 et 2014. Au vu de l'ampleur, au vu du temps écoulé, est-ce que cela aurait été possible sans que le monde de la santé ou une part de ce monde-là, de ses représentants, détourne le regard, Marika Mathieu ?
Force est de constater, à la vue de ce dossier en particulier, et comme par les questions qu'il soulève, qu'on ne peut pas agir impunément malgré des dizaines d'alertes, malgré que des dizaines de membres, aussi bien d'un entourage personnel que d'un entourage professionnel, soient au courant, dans le cas de Joël Le Squarneck, de sa consultation, détention et partage de fichiers pédopornographiques, pédocriminels, donc, cela va sans dire. Il a été condamné en 2005 pour ces faits. Ces faits sont remontés. Nous allons le décrire, une alerte qui finalement n'en a jamais été une. Donc oui, bien sûr que l'affaire Le Squarneck pose la question de la responsabilité de nos institutions, de la manière dont nous faisons face ou non à ces affaires dans l'enceinte médicale.
Vous le diriez, Clara Debord, avec les mêmes mots, est-ce qu'il existe une responsabilité pleine ou diluée du monde de la santé au sens général ou de ses représentants?
Le monde de la santé n'est pas différent du monde en général et nous progressons tous collectivement, en tout cas je le crois, je le souhaite et je crois qu'il y a encore du chemin à faire, nous ne voyons que ce que nous avons appris à voir. Et une telle affaire qui est d'une gravité exceptionnelle et qui est absolument tragique, nous force à ouvrir les yeux et nous aide aussi à mieux comprendre, à savoir que c'est possible et que désormais, quand nous avons ce type de signal, nous devons le prendre beaucoup plus au sérieux que ce que nous pensions à l'époque probablement, où nous faisions aussi peut-être un distinguo tout à fait abusif entre un comportement personnel de prédation et un comportement professionnel. On ne peut pas être un bon professionnel de santé quand on est un pédocriminel dans la vie privée. Ce n'est pas possible. Et donc, bien sûr, le respect de la vie privée...
moins qu'on puisse dire. Hein.
Oui, le respect de la présomption d'innocence, le respect de tous ces droits attachés à toutes les personnes que nous devons tout de même bien sûr respecter, ne doit pas nous rendre naïfs et nous devons absolument poursuivre dès que nous avons ce type de signalement, dès lors que bien entendu il apparaît vraisemblable, ce qui dans votre enquête semble tout à fait démontré.
Lorsque vous dites, Clara Debord, nous voyons ce que nous avons appris à voir, est-ce que vous laissez entendre que des choses n'ont pas été vues parce que les professionnels, parce que des responsables hospitaliers, parce que des responsables aussi des administrations déconcentrées et nationales n'ont pas été formés justement à voir ces choses-là, à voir de la pédocriminalité?
C'est tout à fait ça en fait, hein, le fait que la formation est essentielle, la sensibilisation et les médias y sont pour beaucoup. Et donc merci, c'est aussi pour ça que j'ai accepté cette invitation. C'est très important que nous sachions que c'est possible, que ça existe. Parce que imaginer qu'un médecin qui s'occupe d'enfants puisse faire ce genre d'acte, c'est inimaginable au départ. Tant qu'on ne sait pas que c'est possible, on a du mal à le croire. Et donc je crois vraiment à l'importance de la sensibilisation et aussi de la confiance que les professionnels doivent avoir quant au fait que leurs signaux seront pris en compte et qu'ils n'en auront pas à subir les conséquences. Parce que c'est aussi ça qu'il y a derrière ce type d'affaires, c'est que tout un tas de témoins, certains parlent, mais beaucoup ne parlent pas parce qu'ils n'ont pas confiance dans les institutions. Et donc nous devons aussi donner cette confiance, donner des gages, c'est bien normal, nous le devons aux victimes, mais nous le devons aussi aux témoins.
Je cite la journaliste Florence Aubenas qui couvre le procès Le Skouarnec dans le journal Le Monde. Elle décrit le premier jour de ce procès et les premières lignes sont ainsi. Pendant des heures, écrit-elle, la foule piétine, bruyante, impatiente sur le parvis du modeste tribunal de Vannes. Une trentaine de médecins, certains en blouse blanche, déploient une banderole pour dénoncer l'omerta dans la profession. Marie Ménil, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui est inscrit sur cette banderole? Est-ce qu'il existe une omerta dans la profession médicale à propos de cette affaire Le Skouarnec?
Alors, je ne sais pas s'il y a une omerta dans le monde médical sur l'affaire Le Skouarnec. Ce qu'on peut par contre relever, c'est que la Cour des comptes, elle a rendu un rapport sur l'ordre des médecins en 2019, sur justement la manière notamment dont cette institution privée chargée d'une mission de service public, qui est en charge justement de l'inscription des professionnels de santé, des médecins à l'ordre pour qu'ils puissent exercer, et notamment dans ce cadre de contrôler leur moralité, leur probité, ne traite pas avec rigueur les faits qui concernent justement de nature sexuelle. Et ce mot de avec rigueur, en plus, a un double sens, qui veut dire que non seulement les plaintes ne sont pas prises avec sérieux, mais par ailleurs que les sanctions ne sont pas à la hauteur des faits qui sont souvent dénoncés par les victimes.
Je voudrais vous faire entendre à ce sujet, au sujet justement de l'ordre des médecins, un collectif de victimes qui se regroupait le 19 mai dernier et qui aborde de front la question que vous abordez vous-même.
La faillite de l'ordre des médecins est majeure. Le Conseil départemental de l'Ordre des médecins du Finistère avait connaissance de la condamnation du tribunal correctionnel de Vannes de novembre 2005 et du signalement accablant du docteur Thierry Bonvalo de juin 2006. Il a néanmoins décidé, à l'unanimité en décembre 2006, de ne rien faire après avoir eu un entretien avec Joël Le Skouarnec. Par la suite, plusieurs conseils départementaux de l'Ordre auraient pu intervenir. Ils sont eux aussi restés silencieux. De son côté, le Conseil national de l'Ordre a affirmé ne rien savoir pour revenir très récemment sur ses déclarations mensongères dans son communiqué de presse du 4 mars 2025 où il a avoué connaître le dossier de Joël Le Skouarnec depuis 2006.
C'est lourd, Marika Mathieu, ce que ces victimes-là, en l'occurrence, reprochent à l'Ordre des médecins. Comment est-ce que vous le décririez? Comment est-ce que vous raconteriez, là encore, ce que l'on peut reprocher à l'Ordre?
Alors, encore une fois, en effet, il était cité ces rapports qui ont été celui du Conseil d'État. Il y a aussi des rapports du Sénat. Il y a aussi, et on y viendra, la propre enquête du Conseil de l'Ordre qui a été publiée en novembre 2024, alors même que le Conseil se préparait donc à citer sur le banc des parties civiles, puisque le Conseil de l'Ordre national des médecins s'est constitué partie civile dans ce procès. Donc, dans l'affaire Le Skouarnec, encore une fois, ça n'est jamais qu'un exemple parmi d'autres de ce qui a été documenté et prouvé par ailleurs. C'est une petite histoire qu'on peut se raconter, mais qui commence d'ailleurs parce que c'est vrai qu'il faut se rappeler pourquoi on parle de l'intérêt des formations, etc. C'est que Joël Le Skouarnec est arrêté visiblement. Encore une fois, il exerce pendant 20 ans dans un univers médical dans lequel, des sources et de tous les témoins que j'ai pu approcher dans le cadre de mon enquête, on ne pense pas aux violences sexuelles. On ne s'interroge pas sur ces choses-là. On en fait effectivement finalement un cas à part. Est-ce que ça relève du privé ou pas? Est-ce que le statut de chirurgien joue? En tout cas, c'est un sujet qu'on peut à minima qualifier finalement simplement de tabou. C'est un tabou et c'est étrange puisqu'effectivement c'est un type de violence qui représente pourtant des cas qui sont traités tous les jours mais qui quand ils ne sont pas vus et pas perçus et jamais nommés peut expliquer. Et on en vient effectivement au cas Le Skouarnec donc arrêté en 2005 au cours d'investigations qui vont être liminaires dans le cadre d'une opération internationale. Il est repéré, il est finalement traduit devant la justice. Il est en tout et pour tout auditionné 40 minutes sur des questions. Là encore on en vient à la formation formation de gendarme, puis d'un tribunal qui ne lui demandera même pas quel est son métier, ne lui demandera même pas s'il est au contact d'enfants chaque jour. À la suite de cette condamnation, une défaillance peut-être celle d'un tribunal qui en tout cas ne va pas transmettre, contrairement au code de déontologie.
Un mot, pardonnez-moi, sur la condamnation en tant que telle. Il est condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour détention d'images pédocriminelles.
Oui, il encourait 2 ans de prison et une amende conséquente. Il a effectivement écopé pour ces faits qui sont régulièrement traduits dans les tribunaux quand ils le sont et qui écopent de peines minimales, donc 4 mois avec sursis sans aucune obligation de soins ni de suivi socio-judiciaire. Cette condamnation, aussi minimale soit-elle, encore une fois, on ne peut qu'avoir des hypothèses, elle ne sera jamais transmise comme elle doit l'être. Quand un professionnel de santé est condamné, elle n'est jamais transmise au Conseil de l'Ordre à l'époque du Finistère. Joël Le Scouarnec est en poste dans un hôpital de Quimperlé, un petit hôpital, dans lequel il est d'ailleurs candidat à une titularisation. Il a un concours à préparer et ce concours normalement implique d'ailleurs un casier judiciaire vierge. Et c'est là la faille de tout ce qui va se passer par la suite, puisque Joël Le Scouarnec, finalement, en avril 2006, 6 mois après sa condamnation, va postuler à ce concours et va pouvoir transmettre un casier judiciaire vierge. Mystère, comment est-ce possible? Mais c'est ce qui va expliquer qu'il soit bien titularisé et que finalement l'alerte dont vous avez parlé, puisqu'un médecin de l'hôpital de Quimperlé va être tenu au courant de cette condamnation. Il va se dire, ben, c'est pas possible. En plus, ce chirurgien est très important, le poste qu'occupe Joël Le Scouarnec, pour faire tenir les effectifs de cet hôpital, et ça joue dans la question du maintien.
On y reviendra.
Et donc voilà, lui va lancer cette alerte. Il va par exemple en parler au directeur de l'hôpital, une lettre dans laquelle il met en question les capacités de Joël Le Scouarnec sur ce terrain, et il va transmettre dans le courant de l'été 2006 sa lettre au Conseil de l'Ordre. Quand celui-ci obtiendra finalement la preuve de la condamnation de Joël Le Scouarnec, il l'obtient en novembre 2006, il va effectivement le condamner. Donc le tribunal a mis 1 an à transmettre cette condamnation. Il le convoque un entretien de, là aussi, quelques minutes. Des notes manuscrites nous en donnent l'essence. On lui a demandé si, voilà, il avait des problèmes de couple, si ça allait bien, s'il se sentait plutôt à l'aise. Il avait effectivement affaire à des enfants, mais ça semblait pas poser beaucoup
c'était
de problèmes.
C'était son grand argument. Il avait recouru à des images pédocriminelles parce qu'il avait, selon lui, à cette époque, de graves problèmes de couple.
Vous savez, quand on connaît les affaires pédocriminelles, c'est effectivement ce à quoi recourent 99% des accusés dans ce genre d'affaires. C'était effectivement l'ennui et une passade, un égarement qui est en jeu. Mais donc, ce Conseil de l'Ordre, je vais vite, mais c'est l'essence. Après s'être finalement entretenu gentiment, d'ailleurs, Joël Le Scouarnec s'est dit que c'était un entretien plutôt agréable, a délibéré effectivement à l'unanimité que la consultation et la détention de fichiers pédocriminels n'impliquaient pas la moindre entorse à la déontologie médicale et s'en est remis. Et c'est là où on rentre dans la question des institutions médicales. C'est dit parce qu'il en avait d'ailleurs une forme de droit à l'époque, mais tout ça n'était pas si clair, que c'était à l'État de gérer ce cas et donc il a transmis à l'époque le dossier, le cas Le Scouarnec, à la DAS, qu'il a renvoyé à l'ARS, qu'il a renvoyé au ministère de la Santé.
On va revenir justement sur ce jeu d'instance qui se passe, si je puis dire, le dossier d'une manière extrêmement maladroite, mais votre point de vue, Marie Ménil, sur la décision de l'Ordre, sur, j'allais dire, la permission qui est donnée à Joël Le Scouarnec de continuer, de poursuivre justement ses fonctions, et dans un hôpital public qui plus est.
Alors effectivement, le Conseil de l'Ordre, il a à sa disposition plusieurs sanctions possibles, et là ce qu'on voit, c'est qu'il n'en prend aucune. Alors ça peut aller effectivement de l'avertissement au blâme à des interdictions d'exercer avec ou sans sursis jusqu'à 3 ans et jusqu'à la radiation.
Joël Le Scouarnec, par ailleurs, dira que, se sentant j'allais dire intouchable, il continuera d'autant plus ses actes pédocriminels par la suite.
On peut que estimer que les confrères de Joël Le Scouarnec ont considéré qu'il ne représentait pas un danger pour les patients et que la consultation, la détention, le recel d'images pédopornographiques ne posaient aucune espèce de souci pour la sécurité des patients et que par ailleurs c'était un bon professionnel. Et il me semble qu'il a été aussi soutenu par notamment son
directeur d'hôpital,
son supérieur hiérarchique dans ses démarches, avec l'idée qu'il était effectivement un élément clé.
Cette, cette, Je complète, hein, ce directeur d'hôpital a effectivement envoyé une lettre à l'époque à l'ARS pour
à l'ancêtre de l'agence régionale
voilà,
de santé.
Voilà, à cet ancêtre pour justement justifier la dimension précieuse de cet élément au sein d'effectifs précaires, effectivement, au sein de cet hôpital. Mais la question que vous posiez, c'est de dire, oui, Joël Le Scouarnec a mentionné dans ses écrits, et qui sont encore une fois la seule raison pour laquelle nous avons pu avoir un procès de ses agissements, il a mentionné que la légèreté et que l'impunité n'étaient que le reflet finalement de cette hypocrisie, car il ne parle que d'hypocrisie dans les tentatives d'arrêter ou de condamner les pratiques de ces termes pédophiles, évidemment pédocriminels. Il le dit, il le mentionne tout au long de sa carrière criminelle qui correspond à sa carrière professionnelle. Il n'a jamais été qu'encouragé parce qu'il prétendait être des obstacles sur son parcours.
Clara Debord, dans cette situation-là, et même quand on constate en 2006 que 18 membres du Conseil de l'Ordre auditionnent Joël Le Scouarnec en quelques quarantaines de minutes seulement, sans l'inquiéter, là, est-ce qu'on estime que, justement, ces médecins responsables de ce conseil ne voient pas ce qu'ils devraient voir, encore une fois ?
Oui, avec les connaissances.
C'est encore votre analyse,
justement. Oui, avec les connaissances que nous avons aujourd'hui, grâce d'ailleurs aussi au mouvement MeToo, hein, par exemple, qui a été très, très utile pour faire progresser la compréhension du continuum des violences, parce que c'est cela dont on parle, de l'impact sur les enfants, de l'impact sur les victimes, d'ailleurs, en général, du fait que ça n'est pas parce qu'un pédocriminel va vous dire, non, mais j'ai eu des problèmes de couple, donc, mais je vais arrêter, que pour autant, bien entendu, il s'arrête. Tout ceci, aujourd'hui, nous le comprenons beaucoup mieux. Je ne suis pas en train d'excuser, d'ailleurs, je ne suis pas juge à la place des juges. J'essaie néanmoins de remettre un petit peu dans le contexte, un contexte où notre société ne voyait pas, ne voulait pas voir, peut-être, et ne prenait pas suffisamment en considération les signaux, au-delà du fait qu'il y a eu des failles, semble-t-il, dans la transmission des informations.
Mais donc, pardonnez-moi, vous nous dites, là, aujourd'hui, que vous estimez qu'en 2006, on pouvait estimer qu'un médecin condamné pour détention d'images pédocriminelles pouvait continuer d'exercer à l'hôpital.
De fait, c'est ce qui s'est passé.
Oui, mais c'est le cas encore aujourd'hui.
J'espère que ça n'est pas ce qui se passe aujourd'hui, mais de fait, nous avions dans toutes les couches de la société une méconnaissance majeure, gravissime, de l'impact de ce type de violence, de la gravité surtout, de la gravité. L'ampleur des sanctions le démontre, ou de l'absence de sanctions.
Oui.
Le démontre, c'est-à-dire vraiment une naïveté, et encore le mot est faible, à l'égard de ce type de comportement particulièrement grave.
Vous nous expliquez, Marika Mathieu, que ensuite la décision du tribunal qui avait condamné Joël Le Scouarnec avait été communiquée à la DAS, hein, qui est le service du département chargé des affaires sociales et de la santé, et que là encore, l'information avait été seulement transmise au ministère, que même dans les services de l'État, dans les services déconcentrés, rien ne s'était passé ?
Encore une fois, l'instance chargée de la déontologie, de donner cette alerte, de dire on ne peut pas regarder des fichiers pédocriminels, d'ailleurs de l'aveu même de Joël Le Scouarnec, uniquement sur son lieu de travail. Cette information est présente dans les PV, notamment de sa première audition devant les gendarmes. Personne n'a effectivement remarqué, ni d'ailleurs perquisitionné dans ces lieux de fonction. En effet, on va estimer que ces agissements ne représentent au final qu'un problème administratif. Et c'est ça qui est merveilleux dans l'affaire Le Scouarnec, c'est qu'on observe que c'est pas par hasard que les alertes sont diluées dans les affaires pédocriminelles, puisque on part de cette idée qu'on n'arrive pas à se les représenter, on ne se les imagine pas, on ne se dit pas qu'est-ce que fait un homme qui a des fichiers pédocriminels dans son ordinateur. Voilà, on a toujours l'impression que finalement c'est comme avoir téléchargé un article du Monde, mais évidemment ça n'a pas grand-chose à voir. Mais pour se dire comment 18 personnes, 18 praticiens se retrouvent autour d'une table pour dire c'est pas un problème, il était un petit peu égaré, il a dit qu'il avait vu des pop-up sur son écran d'ordinateur, bon ça arrive. Non, ça n'arrive pas, mais justement...
Des pop-up, c'est des images qui surgissent.
Voilà, c'est ce qu'il avait dit. Il avait dit qu'il n'avait pas compris qu'il avait vu des pop-up. Bon, on arrive effectivement à ce qui va se passer par la suite, et là, ça rend compte ce que je vous disais tout à l'heure, le gros souci de l'administration française. Donc, effectivement, échelle départementale, régionale et enfin nationale au niveau de la direction de l'hospitalisation au sein du ministère de la Santé. Ces trois, finalement, directeurs de services vont s'échanger tout un tas de messages, enfin quelques-uns, mais quand même pas mal, autour du problème que représente comment se fait-il que Joël Le Scouarnec ait été titularisé avec un casier judiciaire, pourtant en ayant été condamné. Parce que ça, normalement, ça n'est pas autorisé. Possible. Et c'est de dire, est-il en faute sur ce terrain-là ? A-t-il masqué ? A-t-il d'une manière ou d'une autre, attenté à la vérité, à la véracité des informations de son concours, justement, qu'il a réussi ? Et c'est ça qui va les embêter. Quand ils vont voir qu'en fait, c'est pas de la faute de Joël Le Squarnec si son casier judiciaire n'était pas à jour au moment de sa titularisation, eh bien, ils vont se dire, du coup, on ne peut pas lui en vouloir à lui. C'est un problème systémique, administratif, petit tribunal de Vannes qui n'a pas transmis un temps et en heure et qui n'a pas fait son travail, certes, mais aucune enquête là-dessus. Et finalement, en un an, cette affaire qui était un cas, il y a un mail où on dit que c'est dommage, qu'il faudrait essayer de revenir au conseil de l'ordre régional qui parfois est moins clément que le conseil de l'ordre départemental. Donc la patate chaude, en l'occurrence, est passée par effectivement 6 ou 7 services différents, sans pour autant qu'on n'en prennent jamais la mesure sur le terrain éthique, déontologique et moral. Mais évidemment, au final, même dans une crise administrative qui n'est jamais posée clairement, comment se fait-il qu'on ne savait pas qu'il était condamné ?
C'est cela, Marie-Ménil, je reprends le prisme de la responsabilité. On a le sentiment qu'il y a dans cette affaire, de la part des services, en tous les cas, de l'ordre, même de l'hôpital, une responsabilité diluée, mais par les acteurs eux-mêmes, que chacun, pour reprendre votre expression, s'est passé la patate chaude sans vouloir la saisir pleinement et se saisir du dossier.
Alors effectivement, après, je pense qu'il y a aussi un changement dans la culture qu'on a des violences sexuelles et en particulier des violences sexuelles sur les enfants, puisque on le voit, les faits pour lesquels il a été condamné, et puis c'est là aussi à mon avis le nœud de l'absence de décision et de l'absence de sanctions disciplinaires de la part des instances ordinales, c'est qu'on a une condamnation pénale et qu'en fait les faits ils sont avérés juridiquement. Le Conseil de l'ordre a pas de pouvoir d'investigation, mais là les faits ils sont avérés du fait de la condamnation pénale. Et donc de se dire qu'il n'y a aucune sanction qui découle d'une condamnation pénale, ça signifie que les faits ont été minimisés, renvoyés effectivement à la sphère privée, et que les signaux qui existaient n'ont pas été pris en compte. Et effectivement, on a dilué cette responsabilité par quelques courriers envoyés ici et là en disant « Bon, on a informé, chacun agira », et en fait, personne n'a pris la mesure, en fait, de ce que ce signal signifiait pour les patients.
Le fait, Clara Debord, que Joël Le Squarnec était à l'époque chirurgien gastrique, une ressource rare pour un territoire, plus encore pour un petit hôpital du Finistère, est-ce que le fait qu'il soit une ressource rare, ça a pu jouer finalement dans le renoncement à l'écarter, à l'empêcher d'exercer ?
Tolérer l'intolérable, ça n'est pas une politique de santé. Donc de toute façon, en période de pénurie, en effet, on peut craindre qu'il y ait une forme d'inconscience ou de volonté de ne pas voir certains comportements délicats. Ça n'est pas tolérable. Nous le devons aux patients. Nous ne devons pas simplement un médecin ou un soignant là où on en a besoin. On doit quelqu'un qui soit...
Sur la dimension morale, c'est une évidence. Mais encore une fois, dans la logique d'un directeur d'hôpital, est-ce que cette dimension-là a pu jouer aussi ?
La dimension de la pression à la ressource pour faire fonctionner un hôpital, elle existe et elle existe encore aujourd'hui. C'est important je voudrais souligner que j'espère que maintenant le système a changé. Nous nous sommes complètement réorganisés. J'ai d'ailleurs la semaine dernière suspendu un médecin. Ça m'arrive assez régulièrement.
La pression est toujours quand même extrêmement forte, voire plus forte encore.
Voilà, je suspends des médecins quand j'ai des signaux, y compris des signaux anonymes. Je tiens à le dire aux patients qui nous écoutent. Nous sommes tous des patients en puissance. Je suspends, je transmets à l'ordre départemental. Parfois, il faut pouvoir dépayser une affaire quand en effet elle est trop risqué de l'aborder en local, parce qu'on sait aussi qu'il y a des amitiés qui peuvent jouer. Donc il est important de ne pas trembler, de ne pas être naïf et de traiter tout à fait correctement ces affaires avec beaucoup de rigueur et de professionnalisme.
Marika Mathieu, votre point de vue, trop compliqué à l'époque, j'allais dire, d'écarter, de limoger un chirurgien gastrique ?
Mais ça l'est hier avec Joël Le Squarnec comme ça l'est aujourd'hui. La question de la culture, effectivement, de ces signalements, des dispositifs permettant effectivement d'entourer, de tracer, de documenter des dossiers qui vont justement permettre. On est encore une fois aujourd'hui et sans là encore une fois le moindre doute dans une situation dans laquelle on est sur à peu près 98%, 99% des plaintes pour viol ou violence sexuelle classées sans suite. Donc il ne faut pas se leurrer sur ce qui se passe en amont, et tout étant dans la question de ce qui se passe passe en amont. Et la culture médicale jusqu'à maintenant a démontré son incapacité à mettre en place des dispositifs de signalement tracé. Je n'ai parlé qu'à des professionnels de santé qui n'étaient encore à l'heure actuelle ignorants complètement des manières justement de faire des signalements.
Et des obligations.
Quand ils le savent, ils ont peur. Ils ont peur de signaler parce que la plainte dans le milieu médical, elle est celle qui elle, la menace, elle est sur celui qui lance l'alerte. C'est lui qui fait dysfonctionner la chaîne des responsabilités. Ça n'est pas celui qui est mis en cause par son équipe. Et ça, il faut le voir que justement dans les enjeux hiérarchiques, mais comme pour des médecins qui tentent de rompre le devoir de confraternité et cette culture qui en est forgée depuis l'école de médecine. Et c'est là où quand même je voudrais citer ce rapport du Conseil de l'Ordre, puisqu'il est essentiel pour poser les questions qu'on est en train de se poser. En novembre 2024, je répète quelques jours avant de citer auprès des parties civiles lors de ce procès, une enquête menée de manière sur tout le territoire national sur le rapport du corps médical aux violences sexuelles. 65% du corps médical, des praticiens, ont connu et ont été au courant de violences sexuelles perpétuées dans le milieu médical. 65% d'entre eux. 25% connaissent les procédures de signalement. 25. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que c'est endémique, ça veut dire que tout le monde le sait, que tout le monde fait avec et que personne ne sait comment faire. Et c'est d'ailleurs à peu près le même chiffre. 65% d'entre eux demandent une investigation d'ampleur, demandent une enquête. Ce qui est en train de se faire pour Bétarame, pourquoi ne pas le faire sur l'hôpital? Qu'est-ce qu'on attend quand on a une affaire comme celle-là qui prouve de A à Z l'inaction organisée des instances hospitalières pour ne rien faire face à ce type d'affaires, pour ne rien faire ni au niveau de la prévention, ni au niveau des sanctions. Le Conseil de l'Ordre est encore entièrement responsable de son inaction par rapport aux plaintes qui sont relevées. Ça arrive tous les jours. Et là encore, on est là, attendons de voir si la culture va changer par elle-même. Elle ne change pas. Tant que les moyens et des politiques publiques à la hauteur ne seront pas posées, rien ne changera.
C'est le moment de rappeler que vous pouvez écrire à votre directeur général de l'ARS, y compris un courrier anonyme. Nous les traitons tous.
Des témoignages de violences sexuelles en milieu hospitalier. On va revenir justement sur cette culture propre au milieu de la santé et au milieu médical.
Alors, quand j'étais jeune externe, donc étudiante en médecine en cinquième année, j'ai été victime de harcèlement sexuel dans un service de chirurgie. Et ensuite, j'ai été témoin, je voyais les choses qui se passaient autour de moi. Par exemple, un médecin à qui il ne fallait surtout pas donner son numéro de téléphone portable personnel.
J'ai demandé aux autres femmes médecins si elles voulaient aussi témoigner pour que je porte avec moi ces témoignages-là. Et il y en a eu énormément, vraiment près de 300 témoignages. C'était une boîte de Pandore à l'époque. Où vraiment, c'était entre les violences sexuelles, les viols, les attouchements, etc.
C'est des remarques sur la tenue, des blagues sexuelles, des gestes qui peuvent être un peu déplacés. Une omerta qui est énorme, c'est un milieu qui est très fermé, qui avec beaucoup de compérages, de personnes qui se connaissent, qui se protègent. C'est un milieu où ça va être particulièrement difficile, je pense, de faire évoluer les choses.
Marie Ménil, le monde de la santé, le monde médical en particulier, est-ce que c'est un échantillon du monde social où il existe une culture propre à ce milieu-là qui peut favoriser les violences sexistes et sexuelles?
J'ai envie de répondre un peu des deux. C'est bien sûr le reflet de la société, mais c'est aussi un monde particulier. Le statut de médecin, le statut de chirurgien, c'est un statut de notable. Et là, dans l'affaire en particulier, ça a joué. Mais c'est aussi des professions...
Comment ça a joué ?
Ça a joué sur la respectabilité. Au sein de la famille de Joël Le Squarneck, d'être chirurgien, c'est d'avoir réussi. Et dans la société en général aussi, d'être chirurgien, c'est d'avoir réussi. Et de la même manière, d'avoir une femme, des enfants, c'est des gages de respectabilité importants qui font douter les personnes qui pourraient avoir des soupçons ou qui pourraient se dire que peut-être que... Il est un peu louche, mais en fait, non, c'est un papy gentil, un peu gâteux, etc. Donc, il y a cet aspect-là lié au statut du médecin. Et il y a la culture médicale avec, notamment en milieu hospitalier, entre professionnels, une forte hiérarchie et des corps qui sont aussi fortement différenciés avec des médecins, de plus en plus femmes, mais quand même beaucoup, au moins dans les statuts les plus élevés, chefs de service, professeurs, beaucoup d'hommes, des infirmières, des aides-soignantes. Et donc, il y a des violences sexuelles entre professionnels. Et puis, les médecins, c'est ceux qui ont accès à l'entièreté du corps des patients. Alors certes, on a essayé de rééquilibrer la relation médicale avec la loi Kouchner du 4 mars 2002 en donnant des droits aux usagers du système de santé et des droits fondamentaux qui découlent de la dignité de la personne humaine. Mais c'est vrai que de pouvoir être informé de ce qui va être fait et de consentir aux actes médicaux, c'est se prémunir d'une certaine manière que des actes médicaux non nécessaires soient commis et qu'en fait ce soit pas des actes médicaux mais en fait des violences masquées sous la blouse blanche.
On a peu parlé d'un homme, le docteur Bonvalot, psychiatre. Il était à l'époque au sein de l'hôpital où exerçait Joël Le Scouarnec. Il présidait la commission médicale d'établissement de l'hôpital. Il avait connaissance de la condamnation de Joël Le Scouarnec. Il a rédigé un courrier pour prévenir le directeur d'hôpital. Et il explique que dans le fond, c'est compliqué d'être lanceur d'alerte dans le monde de la santé, dans le monde médical, à l'hôpital en particulier. Pourquoi c'est si compliqué, Marie-Miani? Qu'est-ce qui complique le chemin du lanceur d'alerte?
Alors, malheureusement, je ne sais pas si c'est uniquement lié à l'hôpital. On le voit aussi dans l'affaire Bétaram, la professeure qui a parlé est traitée d'affabulatrice. La difficulté de lancer l'alerte, elle est dans toutes les structures, les cellules, que ce soit familiales, hospitalières, scolaires, dès lors qu'en fait on a un système qui fonctionne avec de très forts liens, aussi hiérarchiques justement, puisque c'est ce qui se passe. Les personnes qui... Alors là, on avait effectivement un psychiatre, donc on va dire un père de Joël Le Scouarnec, mais on pourrait imaginer que des infirmières, des aides-soignantes aient pu aussi avoir des soupçons. Et il est vraisemblable que leurs paroles n'auraient pas été audibles, encore moins que celles de ce psychiatre.
Un mot sur les enfants, Clara Debord. Je rappelle qu'à l'époque où ils ont été agressés, en moyenne, les victimes de Joël Le Scouarnec, agressées et violées d'ailleurs, les victimes de Joël Le Scouarnec avaient en moyenne 11 ans. Est-ce qu'au sein de l'hôpital, il existe un espace, une place qui permet à des enfants de dire ce qu'ils vivent, de peut-être d'expliquer ce qu'ils ressentent comme étant étrange? Est-ce que cet espace existe?
Alors, les hôpitaux se sont davantage structurés, notamment depuis la loi de Kouchner que vous avez évoquée. Les démarches qualité qui sont maintenant obligatoires vérifient que tous les dispositifs sont mis en place pour que s'il y a quelque chose qui dysfonctionne, cela soit connu. D'ailleurs, nous-mêmes, les agences régionales de santé, lorsque nous menons des inspections, ça fait partie des sujets prioritaires que nous examinons dans les hôpitaux, mais aussi dans les EHPAD, par exemple, pour s'assurer que s'il y a quelque chose qui ne va pas, on le sache rapidement et on puisse intervenir. Après, on peut toujours aussi tomber sur des personnes qui falsifient, qui font en sorte de se cacher. C'est toujours beaucoup plus difficile, naturellement. Mais le fait que les témoins aient confiance, plus ou moins, et souvent pas assez, dans l'institution et dans le fait que l'institution va les protéger quand elles vont parler, c'est un fait essentiel sur lequel il faut progresser. Le fait que l'année dernière, dans notre région, nous avons eu une affaire qui a fait grand bruit et j'ai veillé à ce que l'anonymat des victimes et des témoins soit garanti de bout en bout. Ça n'a pas été simple et il y a encore des personnes dans le territoire qui pensent qu'il y a des affabulatrices, des personnes qui ont voulu briser des couples et ce genre de choses. Nous sommes intervenus immédiatement en lien avec le doyen de la faculté de médecine, les services de la justice qui sont les seuls à pouvoir lancer véritablement des enquêtes, mettre des gens sur écoute, aller vérifier dans les ordinateurs. Mais nous, notre devoir, c'est l'alerte et la transmission immédiate des informations.
Marika Mathieu, je reviens un instant sur le pouvoir du notable, le pouvoir du médecin, le syndrome de la blouse blanche dans l'affaire Le Scouarnec. À quel point ce syndrome, ce pouvoir-là, ont-ils joué ?
Les agresseurs ont le pouvoir qu'on leur donne. Ça a été dit sur Marie-Méni l'a très bien dit sur la question de l'imbrication des sphères. Moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, c'est de se dire ce qui est intéressant encore une fois, Joël Le Scouarnec l'ayant documenté, il nous permet effectivement de le raconter. Le pouvoir du médecin découle de celui du père. Moi, j'ai travaillé sur l'affaire Doutreau, vous l'avez dit. En tout cas, on trouvait ça tout à fait logique, effectivement, que dans certains milieux dits défavorisés, on ait des pratiques, etc., et qui évidemment, quand on connaît la construction des cultures incestuelles ou incestueuses directement, on sait bien que l'autorité vient de ce que le groupe confère, finalement. Donc, effectivement, bien sûr, plus on est élevé, plus on a effectivement de protection, bien sûr qu'on l'a dit, la blouse, le chirurgien, alors là, et ça rejoint encore une fois, pourquoi il est primordial de se saisir de ce sujet-là. Dans l'hôpital, ça a été dit également, on a accès au corps. Qu'est-ce qu'on sait? Effectivement aussi de l'affaire Le Scouarnec, qui encore une fois est un reflet non pas de ce qu'on a cherché dans une psychologie particulière, mais d'où vient sa grande perversion. Il a le trait caractéristique de la plupart des agresseurs sexuels sur mineurs, c'est un opportuniste. Il va là où il peut aller. Il se saisit de ce qu'il peut saisir. Et si ce sont des corps d'enfants, ce sont des corps d'enfants. Et il faut dire qu'au nombre des paraphilies de Joël Le Scouarnec, ça en était une parmi d'autres. Il s'attaque à ce qu'il domine. Donc oui, Joël Le Scouarnec domine beaucoup de choses. Mais il est d'extraction modeste. Donc encore une fois, dans son cercle familial, il a son ascension sociale. Mais son père, lui-même, qui était ébéniste et qui finalement lui s'est révélé être un agresseur sexuel également, n'a pas joui de ce statut-là. Donc il faut arrêter avec le conditionnement social. Nous sommes conditionnés à vivre avec des prédateurs et des agresseurs sexuels, à faire avec et à ne pas perturber l'ordre social autour. Le déni, c'est ça. Et le déni familial s'imbrique jusqu'aux plus hautes autorités de l'État parce que nous n'interrogeons jamais, au final, l'intérêt que nous avons à ne pas justement taper dans cette fourmilière-là. C'est-à-dire que ces pratiques-là, ces manières d'être justement, d'être possesseur dans l'enceinte médicale, par exemple, mais comme à l'école ou comme à l'église, du corps des plus vulnérables, on n'y pense pas, on ne réfléchit pas, alors que d'évidence, tout le monde le sait, c'est un lieu dans lequel les agressions sexuelles sont justement les plus faciles à commettre. Joël Le Scouarnec a documenté tout au long de sa vie la facilité avec laquelle il a pu agir. Et s'il ne s'est arrêté, c'est parce que finalement, il a bien voulu. Et c'est encore une fois, combien d'autres que lui? Qu'est-ce qu'on en sait? La seule chose qui nous a permis d'en faire un procès historique est le fait qu'il est documenté lui-même. Autrement,
c'est le carnet que les gendarmes ont récupéré.
Oui, enfin, des carnets, c'est des fichiers internet très, très nauséabonds qui se déroulent sur des pages entières, mais qui, encore une fois, ne racontent que ça. Et combien d'autres? Le type d'agression auquel il se livre et de viol sont justement des gestes furtifs au coin des salles d'opération, dans les chambres dans lesquelles il peut aller et venir. Combien d'autres que lui? Rien que dans l'affaire Le Scouarnec, il y a 3 autres praticiens qui sont inquiétés et il a fallu des dizaines de plaintes pour pouvoir les arrêter. Il n'est qu'un parmi d'autres. Il faut apprendre à les voir.
Marie Ménil, est-ce que vous estimez que ce procès qui a lieu en ce moment puisse provoquer une réflexion profonde dans le monde, le secteur de la santé? Est-ce que vous pressentez même un embryon de réflexion dans ce domaine?
Je pense que le fait que les institutions soient mises en cause et qu'elles se remettent en partie au moins en question sur les défaillances multiples qu'elles ont contribué à... Enfin, leurs défaillances multiples...
Les récits du procès montrent l'inverse. On a le sentiment que, justement, les instances ordinales, les administrations se défaussent largement sur les autres à chaque fois.
Il me semble qu'il y a une directrice d'hôpital qui a reconnu quand même qu'elle prendrait aujourd'hui une autre décision que d'embaucher Joël Le Scouarnec. Après, c'est... un procès, il y en a d'autres dans d'autres sphères. Mmh. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a effectivement un mouvement important, le mouvement MeToo, le mouvement MeToo Inceste, qui contribue à changer la société, y compris dans le monde médical. La difficulté, c'est que ces procès, que ce soit celui de Joël Le Scouarnec ou de Dominique Pellicot, comme ils ont un caractère très exceptionnel, ils donnent l'impression, et je pense que Marika Mathieu l'a très bien dit, que c'est... un homme, un grand pervers. Sauf qu'en fait, et c'est important de le dire, vu le nombre de victimes d'agressions sexuelles, de viols, notamment dans la petite enfance ou l'enfance, les agresseurs, ils sont nombreux et il va y falloir pouvoir détecter davantage les signaux et les prendre en compte.
Clara Debord, un mot.
Oui, il ne faut pas résumer ou limiter le problème des violences sexuelles à quelques monstres, parce que c'est aussi se donner bonne conscience. Le continuum des violences est un concept absolument essentiel. Ça commence par la blague sexiste, la blague graveleuse dans les services.
D'un mot, Clara Debord, est-ce que ce procès, vous-même, en tant que directrice d'agence régionale de santé, est-ce que ça va modifier votre façon d'accompagner, de surveiller, de contrôler
Ça nous remue tous, et on se pose tous la question de comment on aurait fait et comment est-ce qu'on fait maintenant. Ça nous donne une immense ça nous renforce la conscience de notre immense responsabilité, car comme vous l'avez dit, le système de santé fait partie des systèmes vulnérables dans lesquels des personnes opportunistes peuvent intervenir. Je ne voudrais pas donner à penser que tous les médecins sont des agresseurs sexuels, naturellement, mais en effet, nous avons une responsabilité d'autant plus grande que nous avons à prendre en charge des personnes très vulnérables.
Merci beaucoup à tous les trois de ces explications. Clara Debord, Marika Mathieu, Marie Ménil.